Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission de vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Cette semaine, nous avons rencontré Déborah Lenné. Cette doctorante effectue actuellement sa thèse au sein du laboratoire d'art, lettres et langues. Son sujet porte sur le processus d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Déborah examine les dossiers des sites ayant ou n'ayant pas été retenus pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'appuie particulièrement sur le dossier des marges de Bretagne, un dossier actuellement trop flou et rejeté par le comité des biens français. Une émission pleine d'exemples et d'anecdotes sur le patrimoine culturel et naturel français et aussi mondial. Déborah Lenné, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous réalisez une thèse au sein du laboratoire d'art, lettres et langues, au sein de la faculté de Rennes 2. Donc, votre sujet est plutôt très intéressant puisque vous vous intéressez au processus d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, comment ça se passe ?
Alors, le processus d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quelque chose de très, très complexe. Et beaucoup de gens ne voient pas, en fait, tout l'aspect difficile de ce dossier. Quand on parle de patrimoine mondial de l'UNESCO, tout de suite on voit de grandes cathédrales, des super monuments, des touristes. Il y a tout autre chose derrière. Le montage d'un dossier à l'UNESCO, c'est compliqué, c'est long, ça demande énormément de travail.
Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour s'inscrire ?
Alors, pour faire une demande d'inscription, oui, il faut remplir au moins 3 ou 4 des 10 critères évoqués par l'UNESCO. Donc, ces critères, on les retrouve sur le site internet de l'UNESCO, whc.unesco.org. Et notamment, vous avez des critères qui concernent des sites aussi bien culturels que naturels. Alors, par exemple, l'un des critères principaux, c'est que le site doit avoir un intérêt scientifique, historique, esthétique ou artistique pour l'histoire et l'histoire de l'art mondial.
Et est-ce qu'il y a d'autres critères ?
Oui, bah évidemment, il faut avoir déjà une certaine authenticité. Si on parle d'un monument, il ne faut pas qu'il ait été reconstruit, réhabilité au goût du jour. Et aussi des conditions d'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander l'inscription d'un site qui n'est pas complet ou qui a été partiellement détruit, qui est partiellement utilisé pour autre chose.
Et alors, au niveau du dossier à monter, ça se passe comment ?
Alors, la demande se fait tout d'abord auprès du Comité national des biens français du patrimoine mondial. Donc, on a d'abord tout un dossier qui est monté localement par les porteurs du projet, qui prend déjà un certain nombre d'années. Puis, ce projet est montré au Comité français des biens du patrimoine mondial, qui va après présenter ce projet au Comité du patrimoine mondial. Et à ce moment-là, le projet est inscrit sur la liste indicative et il peut entrer dans la grande série des évaluations de l'UNESCO.
Alors, qu'est-ce qui figure exactement dans ce dossier ? J'imagine qu'il y a un nombre très important d'informations à mettre.
Le dossier est très complexe. On va d'abord avoir un petit historique du site. Quand il date, pourquoi il est comme ça, est-ce qu'il y a eu des réhabilitations, des restaurations, etc. Et il faut évidemment délimiter très très précisément le site, donc sur une carte avec des données géographiques très précises, latitude, longitude, etc., la surface. On ajoute également la zone tampon, donc la zone qui est autour du site, dire quelle zone tout autour va être protégée également pour le site lui-même. Et évidemment, il faut ajouter tout ce qui est contact administratif. Qui gère le site ? Est-ce que c'est une collectivité territoriale ? Est-ce que c'est un particulier ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est une copropriété ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ce site ? Et surtout, il faut ajouter une bibliographie, montrer que le site a été étudié, il est connu, et donc la demande ne se fait pas comme ça par hasard.
Donc il faut avoir systématiquement un truc en plus pour postuler.
Voilà, il faut avoir en fait ce qu'on appelle une VUE, donc la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ce site est est unique au monde. On parle de patrimoine mondial, donc il faut que ce site, il parle à tout le monde. Donc aussi bien le Parisien que celui qui va vivre à Tombouctou, à Shanghai.
Et alors votre travail de thèse, donc, il consiste en quoi du coup ?
J'analyse les dossiers qui sont montés, donc des dossiers qui sont parvenus à leur terme, hein, dossiers qui ont permis une inscription, et des dossiers qui ont échoué à l'UNESCO. Et je travaille également donc sur les avis qui sont rendus sur ces dossiers, donc avis qui sont réalisés par d'autres organisations internationales que l'UNESCO, donc notamment l'ICOMOS, qui est Conseil international des monuments et des sites, qui va, pour chaque dossier, se rendre sur le site, donner un avis, étudier le site, qu'est-ce qui serait en faveur d'une inscription, qu'est-ce qui bloquerait une inscription, pourquoi on choisirait ce dossier, quels sont les plans de gestion aussi qui sont mis en place, donc de gestion du site. Si on a un afflux de touristes, comment ça va être géré ? Si on a une inondation, un feu, n'importe quoi, comment le site va être géré sur le long terme et notamment au niveau des dangers qu'il menace.
D'accord. Et alors, cet avis, l'avis d'ICOMOS, il est pris en compte par l'UNESCO ?
Oui, alors c'est l'UNESCO qui demande ces avis. Et donc, je dirais qu'à 95%, c'est la décision de l'ICOMOS va être celle qui sera prise par l'UNESCO.
Alors, est-ce que vous travaillez sur un exemple concret ?
Alors, actuellement, oui, je travaille sur le projet des Marches de Bretagne, une inscription des Marches franco-bretonnes au patrimoine mondial, qui est un projet initié par la ville de Vitré en 2009. Donc, ce projet a pour but de faire inscrire l'ensemble de la Marche de Bretagne. Donc, la Marche de Bretagne, c'est quand même toute la zone qui s'étend depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à la baie de Guérande et qui couvre sur une largeur d'une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est assez vaste. Pour l'instant, sur ce projet, 20 sites ont été retenus par la ville de Vitré. Donc, il y a notamment Vitré, Fougères, Saint-Aubin-du-Cormier, Guérande, Clisson, Saint-James, Lassay-les-Châteaux. Donc, on voit que là, on a des sites qui sont à la fois sur la région Bretagne, mais aussi sur la région Pays de la Loire et la région Normandie. C'est pour ça qu'on parle de marche franco-bretonne plutôt que de marche de Bretagne, hein, puisque les marches, ça implique évidemment donc des forteresses côté breton, mais en réponse, des forteresses côté français.
Et alors, est-ce que le dossier pour la marche de Bretagne a déjà été présenté à l'UNESCO ?
Donc, le dossier est en cours de montage. Bah, comme là, on travaille sur un site en réseau, c'est-à-dire on n'a pas un seul site qui va être classé, mais une vingtaine de sites, on est obligé d'avoir une mise en réseau. Donc, une association s'est créée, Les Marches, Terre de Rencontre, dont le siège social est actuellement à la mairie de Vitré. Et à partir de cette association, on a un comité scientifique qui a choisi des sites susceptibles d'être inscrits. Donc, le dossier étant toujours en cours de montage, hein, un dossier UNESCO, c'est extrêmement long à monter, mais une première valeur universelle exceptionnelle a été mise en avant et présentée en juin au Comité des biens français du patrimoine mondial. Donc, le Comité des biens français a malheureusement rejeté cette demande pour l'instant, hein, même s'ils sont intéressés par le projet, ça leur semble encore trop flou, trop vague. Donc on sait qu'on a encore du travail derrière pour finaliser, mettre en place, mettre en cohérence tous ces sites.
Et alors ce comité scientifique donc, qui se déplace pour voir le site, il est composé de combien de personnes ? Est-ce que c'est des professionnels ? Enfin, de qui il s'agit en fait ?
Alors actuellement, on a 4 personnes au comité scientifique donc, qui sont pour la plupart des universitaires. On a un archéologue, un spécialiste des fortifications, un spécialiste des marches de Bretagne et un spécialiste de la construction à pans de bois.
Donc il me semble qu'il y a un site un peu dans le même principe que la marche de Bretagne, donc qui est le site de Vauban, qui lui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Alors pourquoi lui il y est ?
Alors le réseau des fortifications de Vauban, c'est le dossier en fait sur lequel je m'appuie justement pour travailler sur les marches de Bretagne, puisque c'est aussi un dossier de mise en réseau de plusieurs villes. Alors, ce qu'ils ont mis en avant, en fait, à l'origine, ils étaient 14 sites en réseau et ils mettaient en avant déjà l'authenticité de leurs structures hein, qui ont été réalisées par Vauban à l'époque de Louis XIV. C'est sur le long de la frontière française. Vauban était quand même un précurseur dans son architecture, dans ses fortifications et c'était aussi un humaniste. Donc, c'était quelqu'un, déjà le personnage a quelque chose de particulier, le personnage est reconnu et on sait qu'il a été copié jusqu'au Japon. Donc il y a déjà cet aspect très mondial, hein, très universel que recherche l'UNESCO. Et ces fortifications, celles qui ont été présentées à l'UNESCO, sont pour la plupart entières, elles n'ont pratiquement pas changé. Certaines sont même encore occupées par l'armée depuis leur construction. Donc il y a aussi une pérennité dans l'utilisation de la structure qui font que ce sont vraiment des témoins exceptionnels de l'architecture de cette époque, de l'architecture militaire à l'époque de Vauban.
Et alors, quels sont les avantages pour un site d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO? Et est-ce qu'en fait, des fois, il y a des déceptions, par exemple?
Alors, la première chose qu'on voit quand on entend parler de patrimoine mondial, justement, ce sont les hordes de touristes qui vont venir dépenser leur argent, donc refaire partir peut-être une économie un petit peu en berne. Alors ça, c'est un cliché, hein, parce que très très souvent, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO n'apporte pas beaucoup plus de touristes. Les sites qui sont déjà très très patrimoniaux vont continuer à avoir un afflux de touristes important. Des sites qui sont moins connus ne vont pas tellement voir de différence. Notamment pour les fortifications de Vauban, on sait que Briançon, il y a toujours une activité touristique importante avant l'inscription. Elle est toujours aussi importante, voire peut-être un peu plus, mais d'autres sites comme le site de Saint-Valahouc, toujours dans les fortifications de Vauban, n'ont pas vu de changement significatif au niveau touristique. Alors l'autre avantage que souvent on attend de l'UNESCO, c'est on se dit, on a un site au patrimoine mondial, donc on va toucher des subventions. C'est extrêmement faux. Un État qui participe, qui adhère à l'UNESCO, verse une cotisation, mais en retour, on n'a pas forcément d'aide financière ou technique. Ce sont principalement les pays en difficulté qui vont bénéficier de cette aide, mais en aucun cas les pays occidentaux. L'un des inconvénients aussi qu'on peut voir, c'est que on s'attendait peut-être à un peu plus de soutien, et c'est absolument pas le cas. Donc il y a aussi des déceptions au niveau touristique, hein, parce qu'on n'a pas toujours les retours qu'on attendait. Et en plus, on a des obligations, des devoirs, donc notamment la mise en place de plans de gestion, donc la gestion des touristes, la gestion du site, et des visites de l'UNESCO à l'improviste qui peuvent venir vérifier que le site n'a pas changé, n'a pas subi de détérioration. Et si c'est le cas, le site peut alors être rayé de l'UNESCO.
Et ces visites de l'UNESCO, elles ont lieu tous les combien? Enfin, c'est à peu près une fois par an, une fois tous les 10 ans?
C'est à peu près tous les 5 ans. En fait, l'UNESCO a un ensemble de rapporteurs et je dirais qu'à chaque année, il y a un continent qui est visé en particulier. Donc après, ça ne veut pas dire que chaque site va être visité tous les 5 ans. Hein. C'est un peu la surprise. Et les sites sont aussi visités, sont aussi surveillés lorsqu'on sait que des travaux ou des aménagements vont être effectués.
On s'accorde une petite pause musicale. On écoute le groupe Catalyst qui interprète le titre « Day into Night ».
Place like home. makes me feel so high, so high. Tell myself that you'll come back someday. What I know is just a lie. Another day is done, another race is run, and there is no place that makes me feel like.
De retour dans le Labomatique, Déborah Lenné revient sur les inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous lui avons demandé combien de sites ou de monuments étaient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en France.
En France, il y en a entre 50 et 60.
Et est-ce qu'il y a des sites qui risquent d'être rayés de la liste ?
Oui, oui, c'est possible. Alors, il s'est posé le cas à Bordeaux. La municipalité a cherché à mettre en place un pont pour désengorger la circulation. Et ce pont aurait cassé la vue sur le port de la Lune, hein, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'UNESCO a émis en fait un avis demandant à la ville de Bordeaux de lui soumettre les plans de construction de ce pont, d'essayer d'améliorer aussi la construction, de peut-être de changer l'endroit où ça devait être construit pour que le site qui est protégé actuellement ne subisse pas les conséquences de ce pont. Bordeaux fait l'effort, Bordeaux est extrêmement attentive à ce label, c'est vraiment une municipalité qui s'intéresse à son patrimoine et qui cherche à le préserver. Alors l'autre site qui est beaucoup plus en danger, c'est le Mont-Saint-Michel. On a un projet d'éolienne dans la baie du Mont-Saint-Michel qui retient l'attention de l'UNESCO, notamment au mois de juillet dernier. L'UNESCO a signalé que si ce projet d'éolienne devait se faire au Mont-Saint-Michel, dans la baie du Mont-Saint-Michel, on retirerait l'abbaye du Mont-Saint-Michel, donc du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également la baie du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, c'est un site très très particulier, inscrit très très tôt au patrimoine mondial. Donc, l'abbaye a été inscrite en premier en 1979, et ensuite c'est toute la baie autour, donc un site plus naturel, qui a été inscrit en 1982. Et là, si les projets éoliennes devaient se faire, ce sont les deux sites qui seraient rayés de la liste.
Au niveau des chiffres dans le monde, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de sites répertoriés au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Alors actuellement, on est entre 930 et 950 sites, beaucoup plus que ce qui était prévu lorsqu'on a mis en place le patrimoine mondial.
Est-ce qu'on observe certaines inégalités au niveau de la répartition de ces sites ?
Oui, alors les pays occidentaux possèdent la quasi-totalité des sites inscrits au patrimoine mondial par rapport aux pays comme les pays africains ou voire des pays orientaux comme le Japon. Cela vient en fait du fait que l'UNESCO, c'est une organisation qui a été créée par des pays occidentaux et qui ont donné une définition au patrimoine qui est une définition occidentale. On n'a pas le même patrimoine que l'on vive en Europe ou que l'on vive au Japon ou en Afrique. On sait que les Japonais ont des temples qui sont millénaires, voire plusieurs fois millénaires, des temples construits en bois. Et on sait que le bois résiste mal au temps. Donc tous les 10 ou 20 ans, les temples sont reconstruits exactement à l'identique, suivant les mêmes méthodes que les méthodes initiales. Et pour l'UNESCO, par exemple, ce genre de patrimoine n'est pas reconnu comme étant vraiment quelque chose d'historiquement intéressant.
Et alors au niveau des sites naturels et culturels, est-ce que c'est également réparti aussi ?
Non, c'est toujours le même problème. Il y a énormément de sites culturels et assez peu de sites naturels, même si l'UNESCO encourage de plus en plus l'inscription des sites naturels. Alors le problème des sites naturels, c'est qu'il faut trouver la valeur universelle exceptionnelle du site. Donc c'est assez difficile à évaluer. Et en général, les sites naturels qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, ce sont bien souvent des réserves qui sont en danger du fait de l'action de l'homme ou du fait de catastrophes naturelles.
Le fait qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça les aide à...
Ça mobilise surtout l'attention. Ça mobilise l'opinion publique qui va réagir aussi en disant, ben voilà, ce site est reconnu mondialement comme étant unique, il faut faire quelque chose pour le protéger, pour le sauver. Et on a, c'est pas tellement au niveau de l'UNESCO que ça va se passer, c'est surtout au niveau des populations locales qui vont prendre conscience de leur patrimoine, de leur potentiel patrimonial, de leur potentiel touristique aussi, et qui vont réagir pour aider à sauvegarder ce site.
Donc votre travail, qui donc consiste à donc étudier tous ces dossiers pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la fois en France et dans le monde, du coup, il intéresse qui concrètement ?
Alors, je travaille en fait sur, on va dire, une thèse un peu professionnelle. Je fais un doctorat professionnel, je ne sais pas si ça existe. J'espère que cette thèse servira par la suite aux autres sites qui souhaitent proposer une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour prendre conscience aussi de toutes les difficultés d'une telle inscription, tous les devoirs qui suivent une telle inscription, et surtout comment monter un dossier, quels sont les écueils à éviter, comment travailler, surtout si on travaille en réseau, comment faire ce travail de groupe, qu'est-ce qui est à mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut essayer de changer, de modifier, voilà, et vraiment faire quelque chose d'un peu professionnel qui puisse servir après, ou même à des sites qui n'ont pas forcément vocation à s'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais simplement à se mettre en valeur ou rechercher peut-être un label un peu plus modeste, label de ville d'arrêt d'histoire ou de monument historique.
Au niveau de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait avant ?
Alors, j'ai eu un parcours très très éclectique, hein, puisque j'ai à la base un bac scientifique avec une option maths, donc très très scientifique, et je me suis réorientée à la fac, donc je suis venue à Rennes 2 faire une licence en histoire de l'art avec une option archéologie. Par la suite, j'ai rebifurqué à l'université de Caen sur un master en sciences des bibliothèques et mise en valeur du patrimoine, avant de revenir à Rennes pour un doctorat sur l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce qui m'a permis aussi de travailler aussi bien dans diverses institutions patrimoniales, que ce soit bibliothèques, archives, musées, monuments historiques, etc. Et donc, ça me permet aussi d'avoir un point de vue peut-être un petit peu plus large que juste les sites du patrimoine mondial, les monuments en eux-mêmes.
Vous travaillez actuellement dans un musée.
Oui.
Et alors, quels sont vos projets ?
Alors, actuellement, je suis agent de médiation culturelle au Scriptorial d'Avranches, donc le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Par la suite, j'aimerais bien évoluer un petit peu, ne pas rester à ce poste, mais évoluer plus vers un poste de conservateur, donc soit en musée, soit en bibliothèque. Idéalement en bibliothèque, pour obtenir un petit peu autre chose, voir un peu autre chose.
Alors, l'univers des bibliothèques vous passionne. Qu'est-ce que vous pensez des livres électroniques qu'on pourra bientôt lire sur nos tablettes numériques ?
Alors, pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. Je travaille dans un musée du livre et donc on apprend à nos petits cinquièmes qui viennent en visite que la première révolution du livre, c'est le livre imprimé, hein, qui a permis de diffuser le savoir, de diffuser la connaissance, de vulgariser la connaissance et de le mettre à la portée de tout le monde par un livre moins cher, plus accessible, plus diffusé. Et je pense que le livre électronique, c'est la deuxième révolution. C'est là, on va avoir un livre qui va être disponible pour tout le monde en même temps. Je veux dire, on ne sera plus obligé d'aller à la BU, d'attendre que le livre emprunté revienne pour pouvoir le récupérer. On n'aura qu'à venir avec sa clé USB, sa tablette, et récupérer le document. Au niveau des recherches, ça va tout changer. Aujourd'hui, on se reporte aux index à la fin d'ouvrage pour essayer de trouver où est le thème qui nous intéresse. Imaginez quand on aura une plaquette numérique, on fait rechercher tel mot et on aura toutes les occurrences qui arrivent, qui viennent. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Je pense que c'est vraiment une très très bonne chose, même si personnellement, je pense que j'aurais du mal à me défaire du livre papier.
D'accord, bah merci beaucoup Déborah Lenné.
Merci.
Pour mettre des images sur tous les exemples donnés par Déborah Lenné, vous pouvez vous rendre sur la page internet du Labomatique au www.radiocampusrennes.fr. De nombreuses photos vous y attendent, comme le château de Vitré, le château de Fougères, le port de la Lune à Bordeaux, l'île Tatillou pour le site de Vauban et bien d'autres. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.